Alors, connaissez-vous les juges? Quand on parle de juges dans une église, souvent, on ne parle pas de personnes qui siègent dans un tribunal. On parle de ces chefs militaires que Dieu a donnés à son peuple au début de son histoire, au moment où il rentre dans le pays d'Israël. Est-ce que vous les connaissez? Oui, c'est timide. Les enfants qui sont au CBJ, je pense, les connaissent, parce que c'est des personnages qui sont en couleur. Ils ont obtenu des victoires militaires spectaculaires, héroïques, et en même temps, ils vivent dans une démarche d'humilité parce qu'ils se savent faibles. Donc, c'est vraiment des personnages qui sont super sympas à étudier avec les enfants, enfin, super sympas. Quand on est adulte et qu'on lit ces textes, on est un peu troublé parce qu'on a le souvenir justement d'histoires qu'on raconte aux enfants. Et puis quand on les lit adultes, on se rend compte qu'ils utilisent la ruse, ils ont peur. Certains prennent la grosse tête et essayent de prendre le pouvoir et le gardent. D'autres font des serments irréfléchis qui entraînent la mort. Il y en a un qui a un appétit sexuel débordant et ça lui cause des problèmes. Et puis, il y a cette violence. Cette violence qui traverse le livre et parfois, on la trouve gratuite. Et je ne parle même pas de la fin du livre avec l'histoire que je trouve la pire de toute la Bible. Et du coup, si j'ai entendu beaucoup parler des juges quand j'étais enfant, j'en ai beaucoup moins entendu parler adulte et je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu beaucoup de prédications sur les juges. Et pourtant, on va s'atteler à ce livre pendant le trimestre qui vient, jusqu'en novembre, avec une série de 6-7 prédications sur les juges, justement. Essayez de voir qu'est-ce que ce livre a à nous apprendre aujourd'hui. Avant de faire la lecture du texte biblique sur lequel je vais parler aujourd'hui, juste, j'aimerais vous rappeler un peu le contexte si vous ne connaissez pas l'histoire d'Israël par cœur, pour que vous ne soyez pas perdus. La Bible, l'Ancien Testament en particulier, raconte l'histoire du peuple juif. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que nous sommes greffés à ce peuple. Et du coup, son histoire, c'est un peu notre histoire à nous aussi. Dans la Bible, Dieu rappelle régulièrement au peuple juif qu'il est un petit peuple, sans éclat, sans puissance. Ce peuple, les Israélites, il est né en Égypte. Il connaissait Dieu qui avait choisi ses ancêtres, Abraham, Isaac, puis Jacob, mais il végétait en Égypte où il était esclave. Et là, Dieu est intervenu de façon forte pour les sortir de l'esclavage, les sortir de l'influence du roi d'Égypte, le Pharaon, à travers toute une série de signes puissants. Et il les a menés à travers la mer Rouge qu'il a ouvert et la mer s'est refermée, les débarrassant du joug égyptien. Sur le chemin, là où il les amenait, il leur a donné sa loi. Quand on entend de récupérer une loi, on craint un peu, est-ce que je vais avoir des obligations à faire? Mais Dieu garantit que c'est une loi bonne, une loi que si on l'applique, elle permet de vivre ensemble une vie heureuse, une vie qui nous fait du bien. Et on peut le comprendre, Dieu le Créateur donne une loi qui fait du bien à ses créatures. Il connaît leur mode de fonctionnement. Et le projet de Dieu, c'était de les amener, d'amener son peuple dans un pays nouveau, un pays d'abondance, et de les y installer à la place des habitants qui s'y trouvaient. Je passe sur la première tentative ratée, quand le peuple refuse le combat. La deuxième tentative, avec la nouvelle génération, a été conduite par un leader qui s'appelle Josué. Et Josué remporte plusieurs victoires, et le peuple commence à prendre possession du pays promis. Et nous en sommes là. Alors, je prends la Bible et je vais faire une lecture un peu longue. Et puis, comme elle est longue, je vais même la découper en pointillés. Si ça vous intéresse, vous pouvez la lire intégralement. Mais avec cette lecture, on aura un peu un résumé de ce qui s'y passe. Juges, je commence au chapitre 1, verset 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent le Seigneur. Qui de nous attaquera les Cananéens en premier ? Le Seigneur répondit : C'est la tribu de Juda qui ira, je lui livre le pays. Les hommes de Juda dirent alors à ceux de la tribu de Siméon : Frères de Juda, venez avec nous conquérir le territoire qui nous a été attribué, attaquons ensemble les Cananéens, ensuite nous irons conquérir votre territoire avec vous. Les gens de la tribu de Siméon se joignirent à ceux de la tribu de Juda et ils partirent en guerre. Le Seigneur leur livra les Cananéens et les Périsites et ils en tuèrent 10 000 à Bézek. On avance. Les combattants de Juda se mirent en marche avec ceux de la tribu de Siméon, frère de Juda, et ils frappèrent les Cananéens habitant à Séphat. Ils détruisirent entièrement cette ville qu'on appela désormais Horma, la ruine. Les gens de Juda prirent ensuite possession les villes de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, ainsi que des territoires voisins. Le Seigneur était avec Juda, qui conquit la région montagneuse. Cependant, il ne parvint pas à chasser les habitants de la plaine qui avaient des chars de fer. Les combattants de la tribu de Manassé ne réussirent pas à s'emparer ni de Bethshéan, ni de Taanak, ni de Dor, ni d'Ibléam, ni de Megiddo, ni des localités qui en dépendaient, et les Cananéens continuèrent à vivre dans cette région. Lorsqu'Israël fut devenu plus puissant, il ne parvint pas à les chasser, mais il leur imposa des travaux forcés. Les gens d'Éphraïm ne réussirent pas à chasser les Cananéens qui habitaient Gézer, et ceux-ci vécurent avec eux à Gézer. On passe au chapitre 2. L'ange du Seigneur monta de Gilgal à Bokim. Il déclara aux Israélites : Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai annoncé que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Par contre, je vous ai ordonné de ne pas conclure d'alliance avec les personnes qui habitent ce pays et de démolir leurs autels. Or, vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait là ? Eh bien, je l'affirme, je ne chasserai pas devant vous les habitants du pays. Ceux-ci vous attireront dans un piège, vous y tomberez en adorant leur Dieu. Lorsque l'ange du Seigneur eut adressé ces paroles à tous les Israélites, ceux-ci pleurèrent de façon bruyante. Ils appelèrent l'endroit Bokim, les pleureurs. Ils y offrirent des sacrifices au Seigneur. Après que Josué eut renvoyé l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait et ils occupèrent ainsi le pays. Ils servirent le Seigneur durant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gage. Puis, les personnes de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante ne connaissait plus le Seigneur ni les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux du Seigneur et adorèrent les dieux Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des populations qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et ils offensèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. les livra aux ennemis qui les entouraient, si bien qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils allaient au combat, le Seigneur faisait échouer leur expédition, comme il le leur avait annoncé, comme il le leur avait juré. Et ils tombèrent dans une profonde détresse. Puis le Seigneur suscita des juges, et ceux-ci les délivrèrent de la main des pillards. Mais les Israélites n'écoutèrent pas leurs juges. Ils rendirent un culte idolâtre à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils s'écartèrent ainsi rapidement du chemin suivi par leurs ancêtres qui obéissaient au commandement du Seigneur. Ils ne les imitèrent pas. Chaque fois que le Seigneur suscitait un juge, le Seigneur était à ses côtés et il les sauvait du pouvoir de leurs ennemis durant toute la vie de ce juge. En effet, le Seigneur se laissait émouvoir par eux quand ils gémissaient sous les mauvais traitements de ceux qui les opprimaient. Mais à la mort du juge, ils retombaient dans une infidélité pire que celle de leurs ancêtres. Ils rendaient un culte à d'autres dieux et se prosternaient devant eux pour les adorer. Ils ne rendaient ni à leurs mauvaises actions, ni à leur attitude rebelle. Chapitre 3. Le Seigneur laissa subsister des populations dans le pays pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. Voici ceux qu'il laissa dans le pays, les 5 chefs qui dominaient sur les Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Hivites, installés dans les montagnes du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à Lebo-Anath. Le Seigneur désirait se servir d'eux pour savoir si les Israélites obéiraient au commandement qu'il avait donné à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. C'est ainsi que les Israélites habitèrent parmi les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Ils prirent leurs femmes chez eux et leur donnèrent leurs filles en mariage et ils servirent leur Dieu. Jusqu'ici, notre lecture. Une lecture un peu longue, mais je trouve qu'il était difficile de la couper plus pour avoir une vue d'ensemble du message du livre des juges. Et je vous invite très vite à un coup d'œil sur la structure du texte. Et cette structure nous montre que le texte est en deux parties. Ces deux parties, on les voit parce qu'on parle deux fois de Josué. D'abord, c'est après sa mort, et puis après, il est là, il renvoie les Israélites. Donc, s'il est là, c'est qu'il n'est pas encore mort. Vous trouvez ça bizarre. Certains en déduisent que la Bible, c'est un ensemble où on met des textes les uns après les autres sans grande logique. Je crois que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a une première partie du chapitre 1 jusqu'au verset 5 du chapitre 2 qui est une explication de ce qui va se passer, une introduction qui explique ce qui va se passer dans le livre. Et la deuxième partie, du verset 6 du chapitre 2 jusqu'au verset 6 du chapitre 3, qui est une deuxième introduction. Ça peut sembler bizarre, et pourtant, on voit des films qui sont comme ça, des films où ça commence, où on est dans une situation, et puis en fait, tout le film va raconter comment on est arrivé dans cette situation. Les scénaristes d'Hollywood n'ont rien inventé, les techniques narratives existaient déjà, et les auteurs de la Bible les utilisaient pour rendre leur récit intéressant. La première partie est donc une sorte de résumé et tout le chapitre 1 raconte l'histoire du peuple après la période de Josué. Et il y a un bon démarrage dans cette période. On l'a lu, il y a une victoire, on commence par une victoire militaire nette. Ça se passe bien, on consulte Dieu, on suit ses instructions. Après la victoire, on reconnaît le rôle qu'il a eu dans la victoire pour le remercier. Tout va bien. Et après, ça se dégrade. Pourquoi ça se dégrade? Le texte est sobre. Il dit simplement que telle ou telle tribu ne réussit pas à s'emparer de tel ou tel territoire. Il ne réussit pas à s'emparer de tel territoire. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'était trop difficile ? J'ai des doutes. Parce que Dieu a libéré son peuple d'une main forte. Il l'a libéré d'Égypte d'une façon spectaculaire, il l'a mené à travers le désert d'une façon spectaculaire, les premières victoires ont été spectaculaires. Qu'est-ce qui est trop fort pour Dieu ? Dans cette séquence, en tout cas, les exploits s'enchaînent les uns aux autres. Je crois qu'il y a là un manque de persévérance de la part du peuple. Un manque de persévérance parce que la guerre, ce n'est pas facile. La guerre, il y a des morts, il y a des coups à prendre. C'est toujours un stress avant d'y aller, c'est toujours de la fatigue d'y aller. On préfère rester confortablement à la maison avec les siens. Profiter de son épouse, voir ses enfants grandir. Du coup, on regarde si on ne peut pas s'arranger. On soumet certains des peuples aux travaux forcés plutôt que d'aller se battre et de les tuer. On vit avec d'autres, on est tolérant, on accepte de cohabiter avec les autres peuples. Et après ce résumé des campagnes militaires, on a l'ange de l'Éternel qui vient et qui fait un bilan. Il met les choses au point et il annonce un jugement. On entend clairement « Je vais, j'avais, j'avais, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et vous, vous n'avez pas fait. J'ai annoncé que je ne romprai jamais mon alliance, dit-il. Par contre, je vous avais ordonné, il y avait une alliance. Et Dieu dit qu'il a respecté sa part. Mais le peuple n'a pas respecté la sienne. Alors, il annonce la sentence. Parce que dans une alliance, c'est toujours le cas, si les termes ne sont pas respectés par un des partis, alors celui qui ne les a pas respectés est pénalisé. Par exemple, j'ai un accord avec ma banque, mais si je dépense plus que ce que j'ai sur mon compte, eh bien, je suis pénalisé et j'ai des agios à payer. Là, ils seront pénalisés, les habitants du pays vous attireront dans un piège. Ils seront cause de chute. Le peuple adorera leur Dieu. Voilà pour cette première partie. Et la deuxième reprend à peu près la même chose, sous un angle légèrement différent. Déjà, il repart de Josué, Josué encore vivant, qui disperse les tribus qui étaient avec lui. Et pour ceux qui lisent la Bible de façon continue, ce texte-là, il a une impression de déjà-vu. Parce que c'est exactement comme ça que finit le livre de Josué. Comme dans une série, on peut commencer par un épisode qui dit « résumé de l'épisode précédent ». Donc, on voit, on retourne au point où Josué était et on pose le problème, le changement de génération. Une génération est entrée dans le pays avec Josué, c'est la même qui avait vu mourir leur père dans le désert à cause de leur désobéissance. Une génération est entrée, la suivante ne connaissait plus le Seigneur ni les œuvres qu'il avait accomplies. C'est intéressant de noter que la connaissance du Seigneur est liée à la connaissance des œuvres qu'il accomplit. Le Seigneur, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on nous présente, c'est aussi quelqu'un qu'on voit agir. On connaît Dieu lorsqu'on le voit agir. Et donc, après l'explication, eh bien, on voit encore, comme au chapitre précédent, une série de débâcles où on s'enfonce. Les peuples, les tribus adorent d'autres dieux. Les Baals, les Astartés, il s'agit de dieux régionaux, c'est les dieux que les autres adorent ici. Un peu comme si les habitants du pays avec qui on marchait leur disaient « c'est comme ça que ça marche ici ». Ici, il y a ce Dieu, cette divinité, si vous voulez que ça se passe bien, que vous ayez de la pluie, c'est lui qu'il faut prier. Si vous voulez que ça pousse bien, c'est lui qu'il faut prier. C'est lui qui est sur ce territoire, c'est lui qu'il faut prier. Il faut se souvenir qu'on est dans un contexte polythéiste. Et le texte dresse ce schéma. D'abord, le peuple abandonne le Seigneur pour des dieux régionaux. Ensuite, Dieu les livre à leurs ennemis, ceux qu'ils ont laissés parmi eux, et ils tombent dans la détresse. Alors Dieu se laisse émouvoir et suscite un juge à qui il donne la victoire militaire, et le peuple est délivré. Mais les Israélites n'en tirent pas leçon, et sitôt délivrés, ils retombent dans l'idolâtrie. On a comme ça un schéma cyclique. Sans vouloir spoiler, c'est ce qui va se passer dans la suite du livre. Le passage se termine par une explication intéressante sur un point. Peut-être vous demandez-vous pourquoi Dieu n'a-t-il pas débarrassé le pays une fois pour toutes de tous les ennemis ? Ça aurait été plus simple. Il n'y aurait pas eu de risque de tomber dans l'idolâtrie. Ils auraient pu rester fidèles plus facilement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas débarrassé le pays de tous les ennemis ? L'explication est claire, nous l'avons lue. Versets 1 et 2. Le Seigneur laissa subsister des populations dans le pays pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. Et je crois que plus que la nécessité de faire la guerre, ce que voulait Dieu, c'est qu'ils apprennent à compter sur lui. Si Dieu avait supprimé les problèmes, comment les Israélites auraient-ils pu montrer leur confiance ? Dieu souhaite que chaque génération, l'une après l'autre, apprenne à s'en remettre à lui pour affronter les défis qui la dépassent. Du coup, on a deux parties, deux récits qui nous racontent la même histoire sous un angle différent. Un premier angle très terre-à-terre, militaire. Il parle de la conquête au bout de laquelle les Israélites ne vont pas, sans doute parce qu'ils se découragent, c'est fatigant. Et l'ange dit qu'ils n'ont pas obéi et seront punis. Et un autre angle spirituel, où on nous dit que toute cette histoire, leur échec, est la conséquence de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'adoration de faux dieux, au lieu de rester fidèles à leur Dieu, le seul vrai Dieu. Au lieu d'être le peuple unique, mis à part, différent, qui ne se disperse pas dans toutes les divinités locales, au lieu d'être ce Dieu qui adore un seul Dieu, ils adoptent les mêmes divinités que les habitants du coin. Un point aussi qui a attiré mon attention, qui attire l'attention du lecteur qui connaît un peu la Bible, qui connaît l'œuvre de Dieu, c'est la tension qu'il y a entre la grâce et le jugement. Quand on lit ces récits, quand on lit le texte que nous avons lu, on a l'impression de voir un Dieu qui se met facilement en colère contre ce peuple infidèle. Ils l'ont cherché, mais en même temps, il se met en colère et ça ne calque peut-être pas avec l'image du Dieu d'amour qu'on se construit. Mais je pense qu'il faut bien regarder le texte et remarquer également que Dieu ne laisse jamais tomber ce peuple, même s'il le déçoit. Malgré son infidélité, qui le blesse profondément, il continue de s'occuper de lui et de lui envoyer des libérateurs, des juges. Je laisse au lecteur, à chacun d'entre vous, de se poser la question à la fin de la lecture du livre, de juger si Dieu a peu de patience ou si vraiment les Israélites sont incorrigibles. Voici donc pour le contexte du livre. Vous pouvez garder ça en tête lorsque vous allez avoir les autres prédications qui viennent sur ce livre. Mais on ne prêche pas juste pour faire un exposé biblique, même si c'est intéressant, en tout cas moi je trouve. La question c'est, pour nous, en France au XXIe siècle, pour nous, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer ? Je crois qu'il y a une difficulté majeure, c'est comment transposer ce texte, comment transposer cette problématique militaire. Moi, je n'ai pas fait le service militaire et je crois que c'est le cas de tous ceux qui sont plus jeunes que moi. On se sent éloigné de ces histoires de conquête, de combat. Qu'avons-nous à conquérir, nous, aujourd'hui ? Contre qui nous battrions-nous ? D'autant que quand on lit les récits, il s'agit de massacres sanglants. Et pourtant, il nous est dit que dans tout texte biblique, il y a quelque chose à tirer pour nous. Alors, qu'avons-nous à combattre ? Il y a une mauvaise réponse à cette question, c'est de croire que le combat que nous avons à mener, c'est un combat pour la conversion des autres. Quelque part, c'est une guerre sainte, avant ou sans les armes, mais notre combat, c'est de gagner des personnes. Mais ce n'est pas ce que Jésus demande à ses disciples. Quand il est arrêté, il a demandé spécifiquement de ne pas utiliser les armes et il a dit à ceux qui le jugeaient, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Notre combat, notre tâche, c'est établir le royaume de Dieu, et le faire par la paix, de la façon dont l'a fait Jésus, de la façon dont nous l'a enseigné Jésus. Et il y a deux mouvements pour le faire, un intérieur et un extérieur. Le premier mouvement, c'est de faire reculer le péché dans nos vies. Et je dis premier mouvement, si vous étiez avec nous l'année dernière, que vous étiez dans un groupe de maison, on a étudié les discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Vous vous souvenez du premier discours ? C'est le sermon sur la montagne. Cet enseignement de Jésus qui nous invite à être transformés pour être ses disciples, à vivre une vie de douceur, de pardon, de confiance en lui. Voilà une façon de faire avancer le royaume. Et l'autre façon, c'est de transmettre à d'autres. Et je fais encore appel à votre mémoire, le deuxième discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'était l'envoi des disciples en mission. Un envoi qui se fait également de façon paisible. Vous vous souvenez peut-être cette phrase de Jésus, « Si on ne vous accueille pas quelque part, qu'on ne veut pas vous écouter, allez ailleurs. » D'autres ont besoin d'entendre. Allez ailleurs. À l'image de Jésus qui a dit au début de son ministère dans l'évangile de Luc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue. Annoncer la bonne nouvelle et pas convaincre manu militari. » Voilà notre combat, loin d'une guerre sainte, pas de sang à faire couler, mais à combattre tout de même. Et du coup, quelles leçons pratiques est-ce que nous pouvons garder de ce récit ? Le premier point, je dirais, c'est de renoncer au Dieu de notre époque. Comme les Israélites, nous vivons entourés d'autres peuples qui n'adorent pas Dieu, mais qui se livrent à l'idolâtrie. Quand vous m'écoutez, vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Mon voisin, que je sache, n'a pas une statue devant laquelle il s'incline, ou qui fait brûler de l'encens, ou que sais-je. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, la chair et le sang, dans d'autres traductions, mais que nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Des pouvoirs, des autorités, des maîtres, des puissances. Il y en a dans ce monde, je vais en citer deux, l'argent. Dans la Bible, Jésus mentionne avec un nom, l'argent a une volonté propre, qui demande que l'on le serve, qu'on le serve, qu'on se consacre à lui. Quand on a beaucoup d'argent, on a de nouveaux soucis, où vais-je le placer? Comment éviter de payer trop d'impôts? Comment le faire fructifier, l'optimiser? Et quand on n'a pas assez d'argent, on a des problèmes en tête. Comment vais-je boucler le mois? Comment est-ce que je vais pouvoir me payer ceci ou cela? Comment est-ce que je vais être en sécurité? Et parfois, on est très fort, on additionne les deux. On se fait à la fois du souci sur comment gérer et comment vivre en sécurité. L'argent est une divinité de notre monde. J'aimerais citer aussi la liberté individuelle. La liberté élevée comme valeur ultime de notre société, qui se caractérise par ce cri « j'ai le droit ». Et on se braque contre toute obligation, contre tout changement qui m'impacte. Pourquoi ? Pourquoi ? Les enfants posent ces questions avec force. Pourquoi ? Ce n'est pas juste. Et les adultes ne sont pas en reste lorsqu'on tente d'introduire un changement, une nouvelle obligation. J'ai le droit. Et ainsi, on marginalise le bien commun. Je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux. Poussé à l'extrême, je vais même vouloir changer les limites physiques du corps qui m'a été donné à la naissance. C'est moi qui choisis. Alors que la Bible nous dit que nous avons été créés et que la loi que nous donne notre Créateur n'est pas une contrainte, mais une source de sagesse. Je crois que dans notre société, la liberté individuelle est adorée par certains. On pourrait en trouver d'autres. De ses pouvoirs, autorités, maîtres, puissances. Je vous laisse y réfléchir. Nous sommes appelés à ne pas tolérer le péché en nous et à nous en séparer. Deuxième leçon, la nécessité de connaître le combat. Nous l'avons dit, Dieu estime que chaque génération d'Israélites doit connaître le combat. Et pas parce qu'il faut se battre, mais parce que nous avons besoin d'exercer notre foi dans une situation où on dépend de Dieu. Le danger, c'est d'être dans une vie facile et d'oublier qu'on se repose sur Dieu. Nous avons des défis individuels dans nos vies, mais à travers ce texte, Dieu s'adresse à son peuple et nous aussi avons des défis à relever ensemble. En 2023, cette église aura 40 ans. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à quelques défis relevés par cette Église, quelques défis qu'elle a traversés. En 1983, donc, c'est les débuts de cette Église par un missionnaire américain. Et pendant 15 ans, ce sont trois familles missionnaires qui se succèdent sur cette œuvre, qui ont dû quitter leur pays avec leurs enfants pour venir ici où ils ne connaissaient pas. Comment faire sinon faire confiance à Dieu ? En 1998, le missionnaire présent quitte l'église et ne sera pas remplacé dans l'immédiat. La petite trentaine de membres doit faire vivre l'église sans pasteur. Comment faire, sinon faire confiance à Dieu? La période durera 4 ans. Tous les cultes ont eu lieu dimanche après dimanche. En 2002, l'église accueille un pasteur qu'elle rémunère pour la première fois. Et cette décision se prend par la foi. Le budget est un peu court pour le payer à mi-temps. Comment faire sinon faire confiance à Dieu? 6 mois plus tard, l'Église a les moyens de rémunérer son pasteur à plein temps. En 2016, l'Église s'engage dans le projet fou de déménager au 106 avenue Édouard Michelin. La taille du projet impressionne. 1,3 million d'euros, 800 jours hommes de travaux d'autoconstruction. Comment faire, sinon faire confiance à Dieu? Notre présence ici, ce matin, témoigne de sa fidélité. Quel sera le prochain défi? Ou, question plus importante, serez-vous du prochain défi? Comment montrerez-vous votre confiance en Dieu? Je vous laisse avec cette question. J'aimerais terminer par une dernière leçon que nous pouvons retenir. Nous vivons, non pas par la foi, mais nous vivons par la foi, mais ce que je voulais dire, c'est que nous vivons par la grâce. Comme Israël, cela ne dépend pas de nous. D'ailleurs, nous faisons partie d'Israël. La Bible nous dit que Dieu nous a ajoutés à son peuple comme on greffe des branches à un arbre. L'apôtre Pierre écrit « Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes peuple de Dieu. » Dieu n'a qu'un peuple et il ne change pas. Nous aussi, notre salut, son amour pour nous ne dépend pas de notre fidélité. Et si on se regarde en face, on peut dire heureusement, car combien de fois sommes-nous faibles, manquants de foi, à essayer de nous débrouiller par nous-mêmes. La lecture du livre des juges peut produire en nous de la déception quant à l'inconséquence du peuple de Dieu et de l'homme en général. Mais cette lecture peut aussi être un encouragement de voir la fidélité de Dieu qui, malgré la déception, s'occupe toujours de son peuple à travers des libérateurs. Il s'en est toujours occupé jusqu'au libérateur définitif, Jésus-Christ, dont l'œuvre suffit désormais une fois pour toutes. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure. J'ai été un peu long, je m'en excuse. Avec quoi repartez-vous ? Avec quelles paroles nous lancer dans cette année scolaire ? Ce texte nous dit que chaque génération doit en faire l'expérience. Connaître le Seigneur. Connaître aussi son action. Son action de délivrance. Son action de conquête. Avez-vous l'expérience de l'action du Seigneur ? Sinon, je vous invite à faire un pas avec lui. Il souhaite vous ajouter à son peuple, à son alliance à laquelle il est fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Michael, ou moi, ou Philippe, ou d'autres, sommes disponibles pour en parler avec vous. Et si vous avez fait l'expérience du Seigneur, je vous invite à ne pas faiblir, mais à poursuivre le combat pour faire avancer le royaume. Ce combat n'est pas un combat violent, c'est un combat de paix à la suite de celui que Jésus-Christ a mené, mais ça ne veut pas dire qu'il est facile. Nous avons besoin de persévérance pour nous écarter des dieux trompeurs de ce monde, pour nous engager dans les défis pour faire avancer ensemble le royaume. Mais souvenons-nous combien la vie où nous faisons radicalement la volonté de Dieu et nous dépendons de la confiance en lui est plus riche et plus bienfaisante qu'une vie où nous tâtonnons à faire ce qui nous semble bon. Soyons fermes sur ce chemin. Que le Seigneur nous rende fermes sur ce chemin. Amen.